Bonsoir tout le monde. Quelle joie de vous recevoir ici à la ferme de Roveréa. Ça fait des mois qu'on prépare cette rencontre et puis c'est magnifique de voir autant de monde dans ce lieu. Je voulais remercier tout particulièrement la ville, le service des parcs et domaines, dont nous avons la chance d'avoir un représentant, M. Balestra. Je ne sais pas où il est. Il est là. Merci beaucoup d'être là. Et puis, je voulais remercier aussi énormément Gilles Berger, l'exploitant du domaine, qui a accepté de partir dans cette aventure, parce que c'était véritablement une aventure. Ça fait quelques mois qu'on est en contact pour préparer cette rencontre. Gilles, mais aussi Christian, il est où ?
Il va pas tarder.
Enfin, vous lui direz qu'on le remercie chaleureusement. Il a travaillé d'arrache-pied depuis ce matin et même avant pour que tout soit prêt ce soir. Mais je voulais, avant qu'on commence, donner la parole à Gilles Berger, qui est l'exploitant, qui nous explique un petit peu ce que c'est que ce domaine.
Voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue à Roveréa. Donc, moi, je suis ici depuis 6 ans. J'ai repris le domaine en 2017. Et on exploite actuellement 35 hectares, dont à peu près 25 hectares de terres assolées, donc avec des cultures autres que du fourrage et de l'herbe. On produit principalement des légumes, des fruits et des céréales. Et l'entier de la production du domaine est vendu en circuit court, c'est-à-dire soit en vente directe dans notre magasin à la ferme ou sur les marchés, ou alors au travers d'un réseau d'épiceries, de boulangeries ou de restaurants qui nous prennent des produits. Donc l'entier de notre production est écoulé par ce circuit-là. C'est un peu ça le but aussi que je me suis fixé, c'est de produire ces fruits, ces légumes et ces céréales à Lausanne pour nourrir en fait la population lausannoise. On est dans un rayon de 2 km du centre-ville, donc c'est vraiment très local. Et pour la petite anecdote, ici, on est en train d'assainir ce bâtiment. C'est pour ça que vous avez des tas de gravier, de gravats à l'extérieur. Hein. On est un peu au début des rénovations. Normalement, cet hiver, il y aura des échafaudages sur les bâtiments. On va vraiment commencer à les transformer pour qu'ils soient utilisables pour nous. Parce qu'actuellement, voilà, c'est prévu pour du bétail au 19e siècle. On n'a plus de bétail et on n'est plus au 19e siècle. Donc, il faut faire évoluer les bâtiments en gardant le charme historique. Et ici, d'ici 2 semaines, il y aura un moulin qui va tourner et qui produira notre propre farine. Voilà. Et voilà. Donc, sur le domaine, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent. Ça équivaut à 8 plein temps, parce que voilà, il y a des fois des petits pourcentages pour les marchés ou d'autres choses comme ça. Mais ça a été une entreprise qui a pris du volume petit à petit, en allant au marché, en faisant de la transformation et en faisant des livraisons et en augmentant aussi la production du domaine, simplement en diversifiant. On a planté un verger il y a 3 ans de 6000 arbres que vous avez vus en arrivant là en bas. Et voilà, un peu le domaine, je ne m'étale pas trop sur l'histoire, je crois que Jean-Luc va venir dire un mot, c'est donc l'ancien fermier. Et voilà, le bâtiment, oui, de 1800, mieux de 1800, 1860, c'est ça ? Oui, exact. Très bien. Alors, je vous remercie d'être là, je vous souhaite une agréable soirée, profitez, et puis on se retrouvera pour la verrée après.
Merci beaucoup, Gilles. Il y a une autre personne que je voulais encore remercier chaleureusement, c'est Jean-Claude Renoux qui assure le son, la qualité du son ce soir. Merci beaucoup, Jean-Claude. Jean-Claude est ingénieur du son à la RTS. Je crois qu'on peut l'applaudir. Pour ceux qui ne connaissent pas Tu l'as lu, je crois que ceux qui sont là souvent peuvent se boucher les oreilles, parce que je dis toujours la même chose. Tu l'as lu existe depuis 2007. Nous essayons de faire rayonner la littérature romande par des rencontres qui ont des formats différents. Parfois, ce sont des entretiens avec un auteur, parfois avec deux, comme ce soir. Parfois, il y a des accompagnements musicaux. Enfin, il y a toutes sortes de formules. Et l'idée, en fait, c'est de faire connaître des auteurs, des œuvres. Et puis, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de faire correspondre les auteurs, les univers des œuvres, des auteurs qu'on invite, au lieu où on les accueille. Donc, vraiment, de faire correspondre les écrins aux œuvres des écrivains. On est, par exemple, allé dans un home pour personnes âgées, on est allé au musée de la machine à écrire, à la maison de la femme, et tout dernièrement, on était au musée de zoologie avec Bruno Pellegrino autour de son livre « Tortue ». Mais ce soir, on a un immense plaisir d'accueillir Blaise Hoffmann, Jean-Pierre Rocha et Lolve Tillmans. Blaise Hoffmann avec Faire paysan, publié chez Zoé en mois de février, cette année, février 2023. Et Jean-Pierre Rocha pour Petite brume, qui est paru en 2017, sauf erreur, aux éditions D'autre part. Nous avons la chance d'avoir l'éditrice des éditions D'autre part ici, Yasmine Yardé, donc elle sera dehors à la fin du rendez-vous. Je vais vous dire deux, trois mots sur nos auteurs. D'abord, Blaise Hoffmann, c'est un auteur que vous connaissez tous, j'imagine, parce qu'il tourne comme une rockstar depuis quelque temps. C'est pas vrai? Il a écrit une dizaine de romans et de récits de voyage. Il a reçu en 2008 pour son livre « Estive » le prix Nicolas Bouvier au Festival des étonnants voyageurs de Saint-Malo. Blaise Hoffmann est fils de paysan. Et après avoir vécu en ville et avoir beaucoup voyagé, il est revenu sur la côte, s'occuper des vignes, tout en continuant à écrire. Jean-Pierre Rocha, lui, il a exploité une ferme à Vauflin, dans le Jura bernois, de 1974 à 1918. C'est juste. À 2018. Quand il était agriculteur encore, il écrivait à l'aube, avant ou après la traite ? Avant la traite. Et pas moins de 20 ouvrages ont ainsi vu le jour. Et on lui doit plusieurs romans et récits, de nombreuses nouvelles, ainsi qu'un recueil de poésie. Et avec Petite brume, il a été lauréat en fait du prix littéraire Le roman des romans en 2019. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je dois encore dire quelque chose sur Lolve Tillmans. Lolve Tillmans est aussi écrivain et elle a écrit plusieurs romans qui ont été publiés chez Cousu Mouche et BSN Press. Et elle a écrit des nouvelles aussi et puis des choses qui s'appellent des minuscules. Vous pouvez peut-être lui poser la question après pour savoir de quoi il s'agit. Bonne soirée à tous.
Merci Cornelia, bonsoir tout le monde, merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Bonsoir messieurs, est-ce que ça va d'abord ? Comment ça va ? Ça va ?
Ça va très bien, ouais.
Ça va très bien.
Et vous-même ?
Oui, oui. Pas mal. Et Jean-Pierre, ça va ?
Oui, ça va.
Bon. Merci.
Alors, une fois qu'on a calé ça, moi j'aimerais commencer par vous poser une question avant qu'on rentre dans les deux livres pour lesquels on est loin ce soir, et vos parcours et votre écriture. Question un peu générale, parce que, donc, Petite brume, le bouquin de Jean-Pierre, 2017, il a reçu ce prix, le roman des romans, il a eu un succès critique et populaire d'envergure. Et puis, faire paysan de Blaise, à moins que vous viviez sur la Lune. Vous avez entendu parler de ce bouquin et vous avez vu Blaise un peu partout, tourner comme une rockstar. Donc ma question est, ces deux livres à 6 ans d'intervalle, ils ont un grand succès, alors que, si j'ai bien relevé la statistique dans votre livre, il n'y a que 2% de la population suisse qui est activement occupée à l'agriculture. Donc il y a un intérêt fort, en tout cas pour ces deux livres. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est un hasard, parce que c'est juste deux très bons livres qui ont du succès? Ou bien est-ce qu'il y a un intérêt particulier du lectorat roman, voire francophone, pour cette thématique de l'agriculture?
Qui lance les feux?
Voilà, qui a envie de se jeter à l'eau?
Je réfléchis. Pourquoi certains livres marchent et d'autres pas? Je pense que c'est la façon de toucher le lecteur. Mais en Suisse, on est quand même relativement près des paysans. Quoi. Ils sont juste à côté des villes. Je pense qu'il y a effectivement un intérêt pour l'agriculture.
Le lien perdure parce qu'on reste proche.
Oui.
Ouais, bah, d'une part, je ne pense pas qu'on choisisse les sujets d'écriture. C'est les livres qui s'imposent, quoi. Il faut les raconter. Mais c'est vrai qu'en écrivant Faire paysan, je me questionnais sur l'avenir de ce livre. Je me disais, mais qui sait que ça va intéresser un livre qui s'ouvre sur mon village natal avec la ferme familiale, avec l'histoire de mes cousins. C'est quand même pas un sujet facile. Mais je me suis aperçu assez rapidement durant l'année que, en fait, il y a ces 2%, même pas, c'est 1,75% de la population en Suisse actuelle qui est agriculteurs, agricultrices. Mais ce pourcentage-là n'a pas beaucoup d'importance parce que quand on parle d'agriculture, on parle de ce qu'il y a dans notre assiette. Et en fait, tout le monde mange 3 ou 4 fois en Suisse, 3 ou 4 fois par jour. Et c'est vraiment un sujet qui concerne absolument tout le monde. Et là, c'est un peu comme l'école. Écrire sur l'école, tout le monde a son avis. L'agriculture, c'est pareil, tout le monde a son avis. En y connaissant quelque chose ou pas, ça c'est un autre problème, mais on touche assez large. Quoi. Et contrairement à ce que tu dis dans Petite Brume, où tu dis Ramu est le dernier, c'est ça, non? Ramu est le dernier écrivain oui. Qui parle d'agriculture. Après, on voit passer les tracteurs de loin. Moi, je trouve qu'il y a vraiment là une immense tendance à parler, à évoquer l'agriculture dans la littérature contemporaine.
Ouais, mais Ramu, c'était de l'intérieur quand même. Là, on les prend plutôt comme des spectateurs, les paysans. Ce n'est pas les 2% de paysans qui lisent, hein, c'est l'ensemble du public. Les paysans, les gros paysans, ils ne s'intéressent pas trop à ce qu'on dit d'eux.
Les bienheureux, c'est bien de ne pas s'intéresser à ce qu'on dit de soi. Je vous remercie d'avoir commencé par cette question un peu générale. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans vos livres, dans vos univers. Et je vous propose qu'on y rentre sur la pointe des pieds, en faisant un exercice un petit peu inhabituel, c'est-à-dire de vous lire l'un l'autre. Donc, je vais proposer à Blaise de commencer, de nous lire un très bref extrait de Petite Brume pour qu'on puisse un peu rentrer dans ce bouquin et dans le point de vue que propose Jean-Pierre dans ce petit livre qui est une, on pourrait nommer une tragédie. C'est la page 25, ça débute au post-it et puis ça s'arrête au petit crayon. Voilà, c'est bien.
C'est une page et tu me pardonneras. Tu verras. Irina, ses yeux irisés, c'est elle qui m'apporte la bière devant tout le monde. C'est un scoop pour personne, une bière pour le moral. La machine à saucisses était celle de l'oncle Eric. Il en a plus l'usage là où il est. Sa boucherie à la grande rue disparue. Notre monde s'en va. Tout doucement, on perd pied. Irina, vous serez ma dernière étoile. Je cherche dans ce registre, mais la foule me secoue, c'est moi devant tout mon matériel, moi qui bouge pas alors que chacun s'empare de l'objet qu'il a misé, le collier du cheval. Vais-je mourir aujourd'hui? C'est comme de retourner dans son lit encore chaud par une aube de grand froid, tirer la couverture sur soi et presser le bouton de la sécurité de l'arme. Le collier du cheval, petite brume, Un collier de travail, soigné, huilé, cousu main, souple et bien ajusté, comprendront pas très bien là l'histoire du harnachement. Il faut de l'acharnement pour expliquer, dessiner toutes les pièces d'un collier d'attelage pour un cheval avec reculement, porte limonière, avaloir tirant, tour de cou sous collier en feutre sous ventrière. A pris le collier de Fanny. Fanny, a dit Elias Schwartz, parce que pour lui, tous les chevaux agricoles s'appellent Fanny. Mais c'est celui de ma chérie, Petite Brume, saisie, elle aussi.
Merci beaucoup. Donc voilà, on rentre tout de suite dans ce livre qui est une tragédie et on voit donc le point de vue de l'intérieur, comme ça, de la fin, en fait, de la fin d'une exploitation. Je ne sais pas si vous avez un commentaire ou si on entre sur la pointe des pieds dans l'univers de Blaise.
Ouais, ouais,
on entre.
Ouais.
Alors, c'est à la page 46.
Bon, on est déjà passablement entré parce qu'on boit du Hoffmann.
Voilà.
Donc, voilà. Puis je dois avouer que c'est la première rencontre. Enfin, un grand merci à Tu l'as lu parce que c'est la première fois qu'on fait une rencontre littéraire. Et puis il y a un des auteurs qui amène son saucisson. C'est du saucisson ou bien saucisse ?
Ouais, saucisse fumée.
Saucisse fumée que vous dégusterez après de Jean-Pierre Rochat. Et puis pour ceux qui ont eu un verre avant, c'est mon vin. Donc on triangule culture, agriculture, viticulture.
Voilà.
On est raccord.
Ouais. Culture, agriculture. Alors, Blaise Hoffmann, Faire paysan, j'entends déjà les commentaires. Qu'est-ce qu'il nous prépare, le fils Hoffmann ? Un bouquin sur les paysans, alors qu'il ne sait même pas traire, ni semer, ni faucher. C'est un fait, une partie de moi est restée un gamin de ferme, et toutes celles et tous ceux qui ont connu cette enfance sauront de quoi je parle. N'auront pas besoin de description pour sentir sur leur paume la rugosité de la langue d'un veau, humer la puanteur du carburant diesel et de la graisse noire qui ne part pas, l'odeur du maïs lors de l'ensilage, des moissons au plus chaud de l'été. Grandir dans une ferme est un cadeau. Et ce livre n'est peut-être finalement qu'une tentative de rendre un peu de ce qui m'a été donné. Ouais, c'est bien rendu.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on est entré comme ça. Délicatement dans vos univers. Donc on voit, il me semble, deux points de vue très, très différents, peut-être sur un même sujet, mais deux points de vue très différents, de l'intérieur plutôt. Et puis, on est clairement dans le romanesque, ou en tout cas...
Dans la Beuse.
Ça, c'est sûr aussi. Mais chez Blaise aussi, il y a un peu de Beuse. Mais là, on est plus dans... Alors, on en reparlera après, parce que c'est difficile de définir le livre, mais disons, dans l'enquête, sur le pas de côté pour observer. Cependant, il y a beaucoup de points communs, et il y a beaucoup de sujets qui sont traités différemment, mais qui sont traités dans les deux livres. Et une chose dont j'aimerais parler avec vous, on va planter le décor tout de suite, c'est la mort. Parce qu'en fait, c'est très présent dans les deux textes. La perte de sens et qui peut mener jusqu'au suicide. À la page 118, Blaise, vous nous sortez une statistique assez dingue, qui est le taux de suicide chez les paysans suisses est de 40% supérieur à la moyenne nationale. Et vous, Jean-Pierre, vous nous dites, à la page 52, quelque chose qui va ressortir aussi pas mal dans le bouquin de Blaise, c'est comment on tue les paysans ? On les étouffe sous des tâches administratives, informatiques, sous les règlements, les contrôles, les contrôleuses, les inspecteurs. Donc là, j'aimerais vous interroger sur ce poids. Pourquoi, comment ? Pour un paysan, quand c'est plus possible d'être paysan, il y a ce vertige, en fait, qui mènerait à finalement je suis plus rien du tout si je ne peux plus être paysan.
D'abord, il faut, faut contextualiser ces chiffres. Il y a eu dans le canton de Vaud une sale période, 2016, 2018, 2019, énormément de suicides chez les jeunes concernant beaucoup d'écoles d'agriculture. Il faut déjà dire que ces dernières années, ça se passe mieux. Il y a eu des mesures qui ont été prises, des sentinelles, comme on les appelle. Il y a un aumônier des paysans qui est nommé. Et puis, il y a surtout une nouvelle génération de paysans qui sont là et qui savent un tout petit peu plus se répandre en mots, parce que ceux qui arrivent à se répandre en mots, ce n'est pas ceux qui vont se pendre. C'est souvent ça, déjà. C'est une question de tempérament. Et puis là, les jeunes, il y a quelque chose de... J'ai l'impression, dans ces écoles d'agriculture, ceux qui en sortent de plus collectif, et puis de plus dans la communication, il y a moins ces conflits de génération. Les jeunes reprennent, se disent « D'accord, je reprends, mais c'est moi l'exploitant ». Et le papa donne des coups de main, ou les parents donnent des coups de main. Donc il y a peut-être moins ces conflits. Mais après, il y a toutes sortes de raisons qui ont donné cette situation très alarmante ces dernières années. C'est toujours une situation très alarmante, mais au niveau des nombres de suicides, il y en a un peu moins. Et c'est tout un mélange de rémunération. Mais je ne pense pas qu'on puisse résumer ça qu'à l'économie. C'est aussi la reconnaissance. C'est comme vous le dites, le sens, mettre du sens dans l'activité. Quelqu'un qui fait du circuit court va rencontrer les consommateurs, va mettre du sens à ses produits parce qu'il va savoir qui il nourrit. Quelqu'un qui va tout le temps livrer sa récolte dans une grande succursale et qui est seul dans son tracteur du matin au soir comme un chauffeur poids lourd et qui fait ses choix tout seul et qui fait ses grands travaux tout seul, c'est une immense charge mentale, morale, et puis ça devient vite compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre ?
Ouais, je pense que c'est toujours une accumulation de problèmes. Il y a d'abord le côté financier, après il y a les contrôles. Et puis souvent, les contrôles, ils s'acharnent sur les petits paysans parce qu'ils n'arrivent pas à se défendre. Puis le problème chez les petits paysans, maintenant, chaque catégorie d'animaux... Il y a un nombre incalculable de lois. Alors, si on a des chevaux, des vaches, des cochons, des poules, c'est chaque fois des règlements qui s'accumulent. Et forcément que les inspecteurs, c'est plus facile d'aller emmerder un type qui a 3-4 cochons au fond de l'écurie qu'un qui a 3000 cochons qui sait comment se défendre.
Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que vous le dites hein, dans votre livre que depuis 2018, les chiffres sont nettement meilleurs, que ça va mieux. Donc, tant mieux. Tant mieux. Bon, là, on est entre personnes qui écrivent et qui lisent. Donc, c'est sûr qu'on va être obligé de parler, d'ailleurs, ce n'est pas une obligation négative, de la forme. On va évidemment parler un peu du style, de comment on écrit, comment on fait passer les mots. Et là, je vais vous demander de vous lire vous-même pour qu'on entende un peu votre langue. Jean-Pierre, si vous êtes d'accord de nous lire un extrait qui commence à la page 29, qu'on vous entende un peu dans ce style très fin qui est le vôtre.
Bientôt 10 heures, et c'est un 12 avril qui débute dans les nuages et soudain s'éclaircit. La lumière nous tombe dessus comme un printemps en marche. Il y aurait tellement de choses à faire, mais je suis foutu, moulu. Irina dit « Allons, allons ». C'est ça. Je dis « Allons-y pour les machines. Le parc des machines est dans le verger. Le verger à peine fleuri. Timidement sortent les premières fleurs. À regarder les prés, c'est l'instant délicat. Je prends une fleur en bouton, c'est pour ma poche. Je l'emporterai là où je vais. Elias Schwartz, Elias Schwartz est le commissaire-priseur. Elias Schwartz est monté sur la botteleuse vert et jaune. Il a sauté dessus sans céder des mains, prise l'une par son micro avec sono. Là-bas, ça suit la sono. Et l'autre par la liste du Shedai avec ses notes. Il aime montrer sa souplesse, un corps et un esprit dynamique, entraîné à créer une ambiance favorable à la montée des prix. Une botteleuse John Deere a pris. Dans l'éternité, que représente tout le foin qu'on a rentré? Rien, et pourtant ce fut énorme. D'élever à 3 heures du matin et découcher à 2 heures dans la nuit, 23 heures plus loin, une galère pour tous les jours de beau temps, de fin mai à septembre. Elle venait de loin. Je la connaissais pas, mais tout de suite, quand j'ai dansé avec elle, j'ai senti qu'elle m'envahissait, une présence inattendue qui répondait à notre quête sentimentale. À une époque, j'étais le Belmondo local, très très local, tandis que Frida était internationale. Elle riait de ma naïveté, de mon côté rustique, de son paysan si chaud lapin. Même si j'en avais pas l'air, j'étais le meilleur. Quand c'est la plus belle femme du monde qui vous le dit, tu la crois pas toujours. Mais le toujours bouge, glisse, glisse dans l'eau, dans la noyade. Tu ne sécheras plus de ton vivant. La botteleuse, tu peux l'emmener au paradis. C'est une John Deere, du solide. Mais Saint-Pierre dit, on ne veut pas de ça ici, sans même savoir à quoi ça sert. Le pire, c'est maintenant. Le pire, c'est la honte. Je devrais respirer profondément, croire encore en quelque chose, un tout petit moment. La santé est bonne, l'ombre d'un feu du côté du foie et des reins. Rien, j'ai peur, la botteleuse. J'ai encore bien des choses à dire concernant ma botteleuse. Autrefois, il y avait un banc sur la place du village avec un platane et une fontaine. Sur le banc, il y avait toujours 3-4 vieux qui t'auraient bien écouté si tu parlais assez fort. Mais ici, c'est parti pour suivre la viande. La vente. C'est parti pour suivre la vente. Je suis préoccupé. Il y a des bruits dans la forêt. Je veux retrouver l'instant magique de notre rencontre à Frida et moi. Mais avec tous ces gens, impossible de se concentrer sur Frida. Mes pensées sont un troupeau qui part dans tous les sens.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je trouve qu'on entend que c'est une langue très travaillée, très, très délicate. En plus, vous lisez très bien, donc c'est un bonheur. J'aimerais vous poser une question qui est peut-être un peu bateau, mais comment on le travaille, ce style? Est-ce que pour vous, ce que vous dites et le style, c'est deux choses séparées, ou est-ce que c'est complètement lié? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez votre style pour faire passer une information, ou le style, pour que ce soit beau?
Alors, j'écris toujours plusieurs fois. La première, c'est très, en général, assez linéaire. Ensuite, la musique, elle vient avec la réécriture.
C'est dans un deuxième temps qu'on va...
Deuxième, vraiment... troisième, quatrième, où je commence à entendre...
Très bien, merci beaucoup. Alors, Blaise, comme je l'ai dit lors d'un autre entretien qu'on a eu, moi, je définis ce bouquin comme un olni, un objet littéraire non identifié. On ne sait pas ce que c'est, en fait. Il y a des souvenirs personnels, il y a un peu d'enquête, il y a des données statistiques, il y a des opinions, il y a des références littéraires, il y a des réflexions. Donc, c'est un peu difficile à définir comme objet. Et donc, aussi, quelle langue on va utiliser, ça peut être un petit peu compliqué à définir. Donc, pour ça, j'aimerais vous demander de nous lire un extrait à la page 191. Aussi, ça commence au post-it et ça s'arrête au petit trait de crayon.
Du reste, merci, parce que Olni, je le réutilise très souvent, à chaque rencontre, je me dis.
J'aurais dû demander un droit d'auteur, d'autrice.
Tu l'auras en vin blanc et en vin rouge. Ah, on est passé au-dessus, tu vois, on n'a pas tenu longtemps. Mais je crois qu'on va faire tu, comme vous voulez. On est vers la fin du livre. Outre la fonction nourricière de l'agriculteur, il y a la qualité de sa présence au monde. Même derrière les vitres de la cabine de son tracteur, il figure parmi les derniers êtres humains modernes à savoir lire un paysage. J'aime observer son regard quand il se promène. La campagne a un sens, un message, un objectif. Elle est le résultat de multiples initiatives individuelles. Il distingue des variétés, essaye de comprendre comment le collègue s'y est pris. Il estime le rendement, imagine les rotations de culture, le rôle des saisons et de l'altitude. Dans sa pratique quotidienne, le paysan est tour à tour éleveur, vétérinaire, géologue, horticulteur, maraîcher, chimiste, paysagiste, maçon, agronome, mécanicien, météorologue. Il connaît ces gestes simples que les 98% de la population, dont moi, ont oubliés. Ou improvisent maladroitement dans leur jardin, semer, arroser, faucher, désherber, tailler, ramasser, cueillir. Il sait combien de millimètres de pluie sont tombés durant la nuit, si une parcelle manque d'azote, si un arbre fruitier est malade, et de quelle maladie, si une vache est sur le point de vêler ou souffre de piétin. Lorsqu'il descend de son tracteur, lorsqu'il fait une pause au pied d'un arbre, lorsqu'il s'assoit, il ne jouit pas du grand silence de la campagne. Tout vibre autour de lui. La nature lui dicte ce qu'il y aura à faire ces prochains temps, s'il faut arroser, s'il faut protéger, s'il faut se dépêcher, s'il faut laisser faire. Il se penche, attrape une motte de terre, l'effrite. Le sol est fertile, ni trop sec, ni trop humide. Chaque printemps le bouleverse. Chaque automne le soulage. Chaque saison a son odeur, il ne trouve pas les mots, mais ressent en lui une joie profonde, comme quand il arrive avec une belle marchandise au dépôt, quand les vaches sont saines, dodues et qu'elles ruminent au milieu d'un pâturage encore bien fourni, quand on n'entend plus les cloches. Je sais, je deviens lyrique, je relis ce passage une fois, deux fois, dix fois. Alors, j'adapte quelques tournures, je supprime des adjectifs, j'allège, je resserre, mais j'assume la caricature. C'est un propos que je veux porter. Il sonne juste à mes oreilles. Bon, c'est dommage, quatre lignes après, il y avait « Éternité paysanne, mon cul ». Mais
il faut en laisser pour que les gens lisent le livre. Merci d'avoir écrit ça, parce qu'en fait, vous ouvrez un peu la boîte à outils de comment vous avez travaillé, en fait. Là, de justement sur cette langue, sur ce style, de comment faire passer le propos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur... c'était vraiment au cœur de faire passer l'information, donc de donner une langue simple, ou est-ce qu'il y avait un peu d'autres enjeux dans votre écriture pour ce bouquin-là?
Bon, c'est compliqué. Hein. Généralement, c'est aux personnes qui lisent à se poser ces questions-là. Nous, on écrit. Là, sur ce passage-là, c'est plutôt le propos. Ce n'est pas vraiment une question de style. C'est ce qui est dit, de quel point de vue, comment on porte ce propos. Est-ce qu'on va sombrer ? Là, c'est un passage où je tombe vraiment dans le lyrisme, ou la loyauté envers mes quatre grands-parents paysans. me transporte. Et puis juste après, justement, je fais un portrait du paysan machiste, raciste, qui exploite ses Polonais et ses Roumains. Mais y a un moment où voilà, je me laisse aller sur ce style-là. Et puis, mais toujours, je me questionne. C'est un peu le moyen, dans le passage que tu as lu précédemment, moi, je ne suis pas paysan. Je ne suis pas agriculteur, ce n'est pas mon petit hectare de vigne que j'exploite depuis 5 ans qui fait de moi un terrien, un agriculteur. Donc, je suis entre deux mondes. Donc, je ne peux pas en parler si je n'avoue pas à chaque fois mes fragilités, mes limites. Donc, c'est dans ce livre, mais comme dans tous les livres, j'aime bien ouvrir la petite boîte à outils d'écriture et puis dire quelque chose et puis faire de la méta-écriture, c'est-à-dire en même temps dire pourquoi ce propos a ses limites et pourquoi je me sens mal à l'aise avec ces mots-là. Et d'autant plus que ce livre est spécial. Normalement, c'est plutôt des livres littéraires. Et puis là, on est, comme tu le dis, dans une langue, comme vous le dites, dans une langue entre le journalisme, la littérature et puis le l'essai. Ce qui fait que le travail de style était important, mais c'est aussi le travail de scénariste plutôt. Comment mettre ça ensemble, dans quel rythme, comment ajuster ces séquences pour que ça tienne ensemble, cette espèce d'immense foutoir.
Jean-Pierre, ça vous parle, ça, de penser à son écriture par rapport à ce qu'elle veut porter? Est-ce que vous pensez, vous, au lecteur, à comment le lecteur va recevoir le texte, ou bien vous l'écrivez et puis après...
Ah non, je ne pourrais pas écrire sans lecteur. Mm-hmm. C'est quand même le but. Quand j'écris, j'entends aussi le lecteur. C'est important.
Il y a beaucoup de voix dans votre tête, alors.
Ouais, je sais pas. Il y a un écho, en tout cas.
Donc, c'est quand vous retravaillez, vous nous avez confié donc tout à l'heure que voilà, il y a plusieurs réécritures. Ouais. Vous essayez de penser à cet écho, de comment la phrase va passer, est-ce qu'elle sera bien comprise.
Ouais, mais c'est un peu instinctif. J'aime ou j'aime pas. Non, je dis le lecteur, c'est indispensable, mais je veux pas bien faire, c'est juste pour que ça passe.
J'ai une question pour toi. Est-ce que tu rends, parce que ton ancien éditeur me disait que tu rendais tes manuscrits écrits à la main, c'est toujours le cas? Tu rends toujours des liasses de feuilles
quand ils sont d'accord. Mais ils sont... Des fois, j'ai vu qu'il était là, j'ai un copain qui me les... qui transcrivent mes textes. Mais j'écris toujours à la main, c'est indispensable. Je peux pas... Ouais, c'est une forme d'artisanat. Je pourrais pas écrire autrement.
Donc le passage à l'écriture clavier-écran, c'est juste pour transmettre, mais le texte, il est abouti à la main jusqu'au bout.
Ouais. Je sais pas. Je suis un paralytique de l'informatique.
Et toi, Blaise, tu écris à la main?
Moi, je goûte ces moments où j'écris à la main, où on prend des notes sur le moment, mais assez rapidement, je passe au traitement de texte et ça change complètement l'écriture. J'aimerais, dans l'idéal, rester à la main et puis avoir ce geste. Je pense qu'on écrit à la main, il y a quelque chose de plus musculaire, on est plus entre le cerveau et la main, on est un peu moins dans le cerveau. Et puis, c'est vraiment un déplacement qui se fait. Mais moi, dans mes réécritures, c'est vraiment à l'ordinateur. Mais ce premier jet, donc la note qui est faite sur le moment, c'est soit à la main, soit, si j'ai rien pour écrire, avec l'application note de mon téléphone assez peu intelligent. Et puis voilà, mais autrement, il y a peu à la main, hélas. Ouais.
Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un thème qui apparaît dans vos deux livres comme étant très important et en même temps un peu en clair-obscur, c'est la place des femmes ou de la femme. Dans le bouquin de Jean-Pierre, ça paraît central. On a entendu le prénom de Frida, le grand amour, et puis Irina qui arrive là. Et ça paraît presque être la vie même. Je vais une phrase, à la page 89, pardon. Avec justement cette difficulté de l'amour. Il y a des jours où l'amour, on finit de rentrer du foin à 2h du matin, et l'amour, on dit, bon, l'amour demain. Et le lendemain, il se trouve qu'un gars, un jeune homme, lui sourit de toutes ses belles dents et lui fait la cour à Frida, style coq de bruyère, une danse nuptiale. Elle se laisse cueillir par les mains délicates du secrétaire communal. Je m'incline. Donc c'est... Voilà, c'est central dans tout le bouquin. On voit qu'il y a cette souffrance d'amour et puis il y a cette Irina qui arrive. Ça semble être... On peut s'y raccrocher, mais ça me semblait être un petit peu quand même en clair-obscur, finalement. C'est pas ça le centre du livre.
Non, c'est pas le centre du livre, mais c'est présent tout le long. C'est d'ailleurs le gros problème pour beaucoup de paysans, c'est qu'ils sont débordés par le travail, ils se marient, mais c'est plus pour avoir une collaboratrice que pour avoir une partenaire. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de domaines s'enfoncent, parce qu'ils ne s'entendent plus, et puis quand on bosse les deux 15 heures par jour, l'amour, il n'y a plus beaucoup de place. Mais... Surtout aujourd'hui, où les femmes ont quand même envie d'une vie propre. Pendant des générations, c'était simplement... Ouais, c'était très macho, l'agriculture.
Comme le reste de la société,
oui. Oui, mais encore plus l'agriculture, parce que souvent, c'était soit la belle-fille qui venait, qui devait se contenter. Il y avait la belle-mère, le beau-père, ou si c'est l'inverse... C'est toujours problématique.
Blaise, tu consacres un chapitre à Faire paysanne. Et dans ce chapitre, tu nous dis, ce faire, qu'il n'y a que 40% des femmes paysannes qui touchent un revenu. Je vais retrouver la citation
exacte. Soit salarié, soit co-exploitante.
Voilà.
C'est encore un chiffre, et c'est un chiffre récent. Ouais.
Seul un tiers des femmes touche un revenu, un salaire versé par le mari ou un partage des gains en tant que co-exploitante. Donc, c'est un peu plus technique que dans le livre de Jean-Pierre, et on parle un petit peu moins d'élan romantique ou sensuel. Mais enfin bon, ma question reste, qu'est-ce que c'est la place des femmes, de la femme paysanne dans ce monde-là? Je pose la question à deux messieurs.
Ouais, moi je suis plus protestant pudique que Jean-Pierre, en règle générale, parce que c'est pas que dans ce livre, c'est dans tous tes livres, et c'est pas la femme, c'est pas l'histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour, mais c'est aussi la sensualité, c'est aussi le corps qui est très présent. Et ça, je trouve ça très beau, parce que surtout dans la littérature qu'on pourrait dire agricole, il y a soit des témoignages, des récits de vie, j'ai été paysan, je le raconte aussi pour transmettre aux générations d'après, soit des romans un peu contemporains, très orientés idéologiquement, agroécologie, mais le corps, le charnel, le sensuel est absent. Mais c'est pour ça que j'adore ton œuvre, parce qu'elle est rare à cause de ça. Puis ça fait du bien, on rit, parce que là tu parles de quelque chose de tragique et on bascule toujours dans des situations sordides et très poétiques et qui font très plaisir. Mais je ne réponds pas à ta question. Dans mon livre, je l'aborde de manière plus distante, mais abordons-le de manière plus intime. Si je parle de ma mère, voilà. Ma mère, on a fait la donation du domaine avec... J'ai deux frères, entre les trois frères, c'était l'automne dernier. Et puis quand on s'est retrouvés chez le notaire, en fait, elle n'était pas conviée. C'est-à-dire que nous, on a insisté pour qu'elle soit là, et puis sur la feuille, sur l'acte de notariat, c'est marqué « Annelise Hoffmann est présente à la séance », mais on a insisté pour qu'il y ait cette phrase, mais elle a travaillé, ils ont travaillé sur le même domaine, on se répartissant les tâches, mais sur le même domaine, et il n'y a pas de copropriété, il n'y a pas de co-exploitation, donc leur couple s'est bien porté, tant mieux, mais c'est vrai que si, en cas de séparation, de divorce tardif,
avec l'âge avancé, c'est très compliqué. Et c'est une des choses que je relève dans le livre, c'est le côté bénévole, bouche-trou entre le père et le fils, mais ça, c'est quelque chose d'assez passé quand même. Maintenant, ça change, la situation change depuis bien 20 ans. Il y a cet élément-là, et puis il y a la formation. Là aussi, ça a changé. Maintenant, les femmes dans les écoles d'agriculture, sur le canton de Vaud, la plupart des écoles, c'est 40% de femmes, à ce qu'on m'a dit, et puis pas mal de gens qui ne sont pas fils de paysans ou filles de paysans. Donc il y a quand même pas mal de changements, ça évolue. Mais à l'époque, il y avait l'école d'agriculture et l'école ménagère, rebaptisée avec un nom un tout petit peu plus euphémisant, mais ça revient au même. Et là, je cite que deux points, mais il y a eu énormément de soucis, et puis il y a une inertie dans la société pour la changer, et dans le monde paysan, elle est encore plus... Vu que c'est très profond, il faut encore plus d'énergie pour bousculer
ouais,
tout ça.
Ouais, les femmes dans l'agriculture, il y a encore du chemin à faire.
Mais je fais exprès de raconter le portrait de femmes qui ne se posent pas ces questions, qui sont exploitantes, et puis qui le font. Et puis la plupart des jeunes agricultrices ne se posent plus cette question, sont plus plaintives, ne vont pas se victimiser. Elles le font, puis c'est tout. Mais le fait est que, si on regarde dans le rétroviseur, c'est pas gay. Mais voilà.
On va pouvoir ouvrir sur le dernier point que j'avais envie d'explorer avec vous, c'est l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir ? On parle de viande synthétique, on parle de changement de régime alimentaire. En même temps, on a des énormes fermes usines qui se développent un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez une tragédie comme le livre de Jean-Pierre ? Ou un avenir plus brillant? Qu'est-ce qu'il y a, à votre avis, dans l'avenir de l'agriculture en Suisse?
Je pense qu'il y a un avenir plus brillant. Le meilleur exemple, c'est ce domaine ici. C'est une agriculture de proximité qui est faite pour nourrir les habitants. Je pense que l'agriculture industrielle en Suisse, elle n'a pas beaucoup d'avenir parce qu'on n'arrive pas à concurrencer les exploitations qui nous entourent. Mais je pense que l'agriculture de proximité, avec nous, toute notre vie, on a été au marché chaque semaine. Ça peut jouer. Mais dans la grande production, on n'a pas beaucoup d'avenir.
On reviendrait en fait à un modèle qu'on a plus proche de ce qu'on a connu.
Je n'aime pas qu'on dise qu'on revient. Non, c'est plutôt dans l'avenir. Je pense qu'actuellement, on a la chance qu'il y ait une prise de conscience formidable chez les consommateurs. Et j'invite tout le monde à s'approvisionner au marché qu'on a dans toutes les villes. On a la chance d'avoir des marchés partout avec des produits locaux. Et ça vaut la peine de les soutenir.
Et puis moi, j'ai un propos plutôt optimiste, je crois, j'espère, enfin, ou disons plus digne pour l'agriculture. Il y a une personne qui m'a marqué, Martin Pidoux, qui était à l'époque simplement prof de politique agricole et puis qui reprenait un domaine. Là, il va être directeur de Prometteur ces prochains mois. Et c'est quelqu'un très fin, très précis, mais optimiste à trouver des solutions. C'est un livre qui essaye de parler du système. Donc oui, le consommateur, enfin, la consommatrice, petit producteur, petite productrice, il y a ce tandem-là. On se tape dessus de part et d'autre parce que le consommateur aime bien cracher sur l'agriculture, mais l'agriculteur à Villars-Souillon, dans mon village, lui rend bien. Quand on parle des citadins, c'est pas triste non plus. Donc il y a vraiment quelque chose de réciproque dans cette relation qui est problématique, qui est en bas et qui est dommage parce qu'on nie tout le système. Toutes ces dépendances qui sont de l'ordre de l'agrochimie, qui sont de l'ordre de l'agroalimentaire, de la grande distribution, ça sort chaque semaine, il y a des papiers maintenant, c'est bien, quoi. Ça bouge. La politique, les normes européennes, le climat, toutes ces choses qui chapeautent et qui sont vraiment très importantes. Et on aurait tout intérêt à s'unir en bas, consommateurs, petits producteurs, pour réinventer l'agriculture de demain. Mais ça m'a fait rire parce que hier, j'étais dans un marché agricole à Jorat, à Mézières. Donc vraiment démonstration de tracteur, les blés à l'ancienne, vraiment terroir. Et puis je disais que je venais à Rovereá le lendemain. Et puis ah, Rovereá, les bio. Et je me disais bon. Et au sein de la profession, il y a un gros problème de communication déjà, de se dire ok, on n'a pas la même approche, mais on veut aller dans la même direction. La politique agricole, c'est pareil, c'est dur de rassembler tous ces visages différents de l'agriculture pour essayer de partir ensemble, quoi. Donc pas simplement consommateurs, petits producteurs, mais déjà que les petits producteurs s'entendent. Et en fait, c'est ça aussi l'objet du livre. C'est pas vraiment, parce que moi je peux pas théoriser sur l'agriculture, je suis pas spécialiste. C'est plutôt sur le côté psychologique, sur le côté relationnel, humain, d'être curieux et puis d'aller vers l'autre, de lui poser des questions. Voilà, de te harceler de questions après cette conférence pour savoir comment ça marche, quelles sont les complexités de ton quotidien, quoi.
Merci beaucoup. Comme on est très nombreux ce soir, je vous propose d'ouvrir les questions. Voilà, on a tout de suite une question ici.
Est-ce que d'arrêter de faire paysan, c'est pareil que d'arrêter de faire un autre métier ? Est-ce qu'il y a un statut particulier ? Est-ce que c'est un métier paysan ou c'est plus qu'un métier ?
Oui, je pense que c'est plus qu'un métier. On est conditionné avec l'agriculture. J'ai remarqué que c'est très difficile de changer de monde. Ouais. On est vraiment conditionné en tant qu'agriculteur, beaucoup plus que dans un autre métier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Blaise.
Non, mais c'est à toi de répondre.
Ouais.
Et puis prendre plus de temps pour répondre.
Dis, ouais.
Parce
que
tu l'as vécu.
On est super conditionné. On a l'habitude de se lever tôt le matin. Non, c'est très difficile de changer de statut. Mais en Suisse, à 65 ans, on n'a plus de paiement direct. Alors on est carrément forcé d'arrêter. À moins d'avoir un fils ou une fille qui nous engage. Mais
Blaise, par exemple, vous parlez dans votre livre que vous êtes un fils de paysan, et j'ai l'impression que là aussi, ça perdure. Au fond, c'est une culture. Je ne sais pas si je dirais que je suis fils d'un menuisier, et je ne sais pas si c'est le même, en fait, la même chose.
Non, bah déjà pour revenir à l'histoire de communication, non, c'est pas, moi j'ai l'impression que c'est plus qu'un métier, et c'est en ce sens que c'est très compliqué à parler d'agriculture avec un paysan, parce que quand on critique l'agriculture, on critique pas simplement une pratique, on critique lui, ses aïeux, son identité, le sens de sa vie, et ça le rend dingue directement, soit ça le renferme, ça le bloque, généralement Pays de Vaud c'est plutôt... on répond rien, on n'oppose pas moins, puis on part en colère, ou alors ça explose. Mais c'est très sensible. Moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'un métier. Maintenant, bah, pour l'exemple de la famille, bah, visiblement, ça va s'arrêter, en fait, dans 10 ans. C'est-à-dire que mon cousin a repris la ferme. Mais il a deux filles qui ne sont pas intéressées. Et ce domaine va être réparti entre les agriculteurs du village et les exploitations restantes vont continuer à grossir un petit peu. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment une volonté. C'est pas un hasard, il y a une volonté politique, pour l'instant, qui pourrait changer, d'agrandir. C'est tout le fondement des paiements directs qui sont distribués en fonction du nombre d'hectares. C'est pas réparti entre les exploitants. Celui qui fait du micro-maraîchage sur un hectare en exploitant plein de gens, au niveau des paiements directs, c'est la cata. Et on a intérêt à avoir le plus gros domaine. Qui dit gros domaine, c'est beaucoup de machines, beaucoup de dettes, il faut encore plus. Et on va vers cette tendance, d'une agriculture pré-industrielle, disons. Si on continue, on va y tendre. C'est pas encore ce qui se passe aux Pays-Bas ou en Bretagne, mais c'est vraiment un choix. Moi, ça me fait autant mal, en fait, de voir les exploitations qui ferment que de voir les autres qui grandissent.
j'ai la même douleur, en fait.
Donc on passe de l'exploitant agricole, du paysan à l'exploitant agricole, comme vous le dites, au fond, aujourd'hui.
Ouais, alors ça, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Faire paysan ». C'est le mot est différent. Il est moins technique. Et puis, il est, étymologiquement, c'est les gens du paysage, les gens du pays. C'est tout simple. C'est vraiment... on est plus en relation, là, avec le plus vieux métier du monde, agriculteur, éleveur, qu'avec quelque chose de technique, où on veut optimiser les paiements directs en cochant quelques cases, en gardant un arbre mort et puis en faisant quelques surfaces de compensation.
Ouais, c'est beaucoup plus spécialisé. Le paysan, c'est plus humain, ça englobait une ferme avec les abeilles, les poules, tout ce qu'il y avait autour, tandis que l'agriculteur, c'est déjà beaucoup plus spécialisé dans la monoculture. Que le mot paysan, déjà, c'est en rapport avec le paysage et tout ce qui peut produire dans une ferme familiale.
Mais toi, actuellement, t'en es où, Jean-Pierre? Tu fais... T'as complètement arrêté ou tu as des collaborations?
Ouais, j'ai remis le domaine à ma fille et à mon beau-fils. Moi, j'ai encore 5 poules et quelques chats, c'est tout.
Des chevaux?
Non. Des chats.
Non, ouais. Donc, tu as complètement arrêté cette passion.
Ouais.
Et puis, comment on vit ça?
Ah, c'est difficile parce que ma fille, elle m'avait dit 6 mois avant... on est d'accord de reprendre la ferme, c'était le bonheur, mais à condition que tu foutes le camp. Ils ne voulaient pas d'un vieux con qui leur dise quoi faire. Alors, c'est là que c'était dur, parce que moi, je me voyais finir ma vie là-haut, mais je les comprends très bien, hein, c'est toujours délicat. 2 générations sur une seule exploitation.
On avait une autre question plus devant, je crois. Oui.
Ben, j'allais demander comment est-ce qu'on concilie à la fois l'agriculture, enfin le travail de la terre, en gros, et l'activité d'écrivain.
C'est comme ça, quand tu l'as fait pendant des années.
Oui, mais ça m'épate, parce que vous disiez tout à l'heure, en plus, c'est difficile d'avoir une vie de famille, une vie amoureuse, etc. Alors si en plus il y a encore l'écriture, oui, ça fait beaucoup. Hein.
C'était une discipline.
J'imagine.
Tous les jours, je me levais vers 3-4 heures pour lire, écrire, et ensuite seulement aller traire, parce que le soir, c'est foutu, il n'y a plus rien. Alors le matin, ouais, ça. Mais c'était une discipline. Mm-hmm. Même si je m'endormais en écrivant, c'était chaque jour.
Chapeau.
Mais c'était pour le plaisir.
Mais j'ai entendu quelqu'un faire une fois une comparaison entre le travail de la terre et l'écriture. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose.
Ah oui, complètement, oui. Oui, c'est un peu... Je l'écris dans le début de l'écrivain suisse allemand, c'est un peu comme labourer la terre. Écrire, c'est une sorte de sillon. Oui, ça. Culture et agriculture, c'est pas loin.
Et puis pour la vigne, je trouve que c'est vraiment flagrant, en fait. C'est-à-dire qu'on va planter les vignes déjà pour 20, 30 ans. Donc, c'est pas. Quand on se lance en écriture, souvent, c'est pour. C'est un vrai engagement. Et puis après, il y a cette période de taille où on est en train de choisir. À quoi va ressembler la vigne dans une année et demie? En gros, on a toujours beaucoup d'avance. Donc, on crée ce projet littéraire ou on crée ce projet de vigne. Et puis après, l'écriture ou la vigne, c'est un peu comme une liane. Après, ça part dans tous les sens. C'est un flux, ça jaillit. Et puis, le seul job du vigneron, c'est de ébourgeonner, effeuiller, renier, palisser, enfin, toujours contenir le flux. Le canaliser. Et puis après, il y a ce moment qui est joli et qui se rapproche vraiment avec l'écriture, qui est l'égrappage. On a maintenant des quotas pour la culture. Et on va enlever des grappes pour avoir une meilleure qualité. On enlève de la quantité pour avoir de la qualité. Et les livres, j'imagine, c'est pareil chez toi, ça, chez toi aussi. Ça diminue de moitié ou de 3 fois
la quantité. Et puis après, moi, le parallèle continue après encore parce que je ne vinifie pas. Donc ma récolte ou mon manuscrit, je vais le donner à un éditeur. Moi, c'est les éditions Zoé qui vont me faire la bouteille, si on veut, qui vont me faire le livre. Et puis là, il y a de nouveau un délai. C'est tout un hiver, c'est quelques mois avant de recevoir les bouteilles ou de recevoir le bouquin. Et il y a ce travail éditorial de finesse, on va ajuster des choses, quel est le travail de la cave. Moi, je trouve qu'il y a des parallèles assez intéressants, c'est assez drôle, en fait. Après, c'est un peu du romantisme. Mais...
Peut-être qu'on va prendre une dernière question avant l'apéritif, le vin et les saucisses.
Moi, j'apprends que le livre Petite Brume a gagné le prix du roman des romans, qui est un prix décerné par un jury de jeunes.
Oui.
Il se trouve que moi, je fais participer ma classe cette année à ce prix. Donc, je voulais savoir comment votre livre a été reçu par ces jeunes, comment a été le contact aussi entre vous.
Alors,
et
j'ai eu beaucoup de plaisir à le présenter dans les classes. À l'époque, j'étais encore paysan. Il y a plusieurs classes qui sont venues sur la ferme, qui ont été assez rapidement convaincus. Je pense que ça leur parlait. Oui, c'est vraiment bien ce roman des romans parce que on va vers les jeunes, il y a un contact. Non, c'était vraiment bien.
Moi, je l'ai fait du côté des enseignants, donc j'étais aussi enseignant au gymnase pendant 4 ans. Et puis, je m'étais inscrit pour recevoir justement les auteurs. Et c'est vrai que j'avais fait avec des premières années. Et puis, on avait consacré 4 mois pour lire 8 livres. Je ne sais pas combien il y en a maintenant. 8 ? À 6, ouais. Et donc, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres d'écrivains. Puis après, quand on a ses classes pendant 3 ans, ça change complètement la dynamique. Parce qu'ils lisent différemment, ils se posent d'autres questions, et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc c'est un projet qui a failli mourir, si j'avais bien suivi, il y a 2 ans, comme ça. Et puis maintenant, c'est reparti de plus belle, et puis c'est vraiment très beau. Quoi, ouais.
Bon, je crois qu'on est prêts. Les auteurs vont rester là, leurs livres sont à disposition. Je vous encourage vraiment à les acheter, à les lire. Ce sont deux très bons livres. Messieurs, je vous remercie.
Merci.
Et voilà, bonne soirée.
Merci beaucoup Blaise, Lolvé et puis Jean-Pierre pour ce beau partage. Et puis maintenant, si vous voulez continuer la conversation avec Blaise, avec Jean-Pierre, avec Lolvé, avec Gilles, ah, il est déjà dehors. Il y a encore Jean-Luc Chollet qui voulait parler. Je vais lui donner la parole et je reviens après.
Merci. Le verbe vouloir ne désigne pas forcément une volonté absolue de subjuguer par mes discours, hein. Mais je suis né ici il y a bientôt 75 ans et j'ai 50 ans d'agriculture derrière moi, un peu plus, 53 ans de mariage avec la plus belle et la meilleure fille du monde parce que une femme fait des faits d'exploitation, hein, c'est ce qu'on disait chez les vieux paysans, et sous des formes un peu différentes, c'est encore tout à fait valable maintenant. Et puis j'ai 30 ans de politique active qui sont venus se greffer sur cette agriculture, ce qui est tout à fait mauvais pour la santé, mais qui m'a permis d'avoir à la fois la quintessence du métier de paysan avec des vaches, parce que j'étais seul derrière mes vaches et seul sur mon tracteur, ils n'avaient pas de cabine à l'époque, hein. Et puis de pouvoir faire 30 ans de politique où c'est exactement le contraire. On parle à un auditoire dont un certain pourcentage vous approuve quoi que vous disiez et l'autre pourcentage vous désapprouve quoi que vous disiez. Et puis j'ai terminé ces 40 ans de politique active l'année dernière, il y a un peu plus d'une année, et c'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais quand même laisser... péché d'orgueil, pardon, mais laisser quand même une trace de ma vie, en espérant que ce ne soit pas complètement fini maintenant, d'ailleurs, en pensant à mes enfants, petits-enfants. Alors, ma femme m'a acheté 2 cahiers d'écoliers, A4, parce que j'étais le dernier député vaudois qui ne pratiquait pas l'informatique. Et puis, j'ai rempli 23 chapitres. Chaque matin, j'écrivais un chapitre. L'après-midi, ma femme le saisissait sur l'ordinateur. Et puis le soir, on faisait les premières corrections. Et quand on a terminé, on s'est dit, mais ce serait quand même dommage de réserver ça uniquement au cercle restreint de notre famille. Et puis, on est allé trouver un imprimeur. On n'a pas passé par un éditeur. Je ne voulais pas avoir ma bobine à l'aventure des librairies. Et on a tiré à 500 exemplaires avec un imprimeur suisse, ce qui fait que ça a remplacé largement et deux fois la descente du Rhin qu'on s'était promis de faire quand on arrêterait la politique. Et les 500 exemplaires sont partis relativement rapidement. Alors on s'est dit que si d'aventure vous vouliez nous lire, eh bien, on a retiré 150 et on en a quelques-uns ici. Mais je dois dire quand même que cette écriture a été un acte libératoire. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à me donner en politique, mais c'est passionnant, c'est ce qu'on en fait. Mais il est vrai qu'il fallait véritablement marquer le fait que j'allais puiser non pas dans des exposés des motifs et des préavis et rédiger des dizaines et des dizaines de pages d'argumentaires ou autres qui ne sont pas passionnants, il faut bien reconnaître, mais j'allais laisser courir mon stylo en faisant simplement appel à mes souvenirs. Alors, ce livre est ce qu'il est. Je n'ai pas le fardeau de la preuve, mais mes souvenirs sont généralement assez exacts. Et puis, il y a l'histoire de Roverea, du domaine lié à la famille Fallot. Il y a l'histoire de toute l'évolution de l'agriculture. Il y a l'histoire des activités annexes que j'ai faites. Et ça fait quand même pour moi, et je terminerai par là, parce que je ne veux pas que vous me coupiez le son, mais il y a eu effectivement cette vague de suicides en 2016-2017. Et là, le Conseil d'État, plus précisément le conseiller d'État Philippe Lebas, en charge de l'agriculture, a dit « ça suffit, c'est terminé, c'est plus supportable ». Et il a obtenu du Conseil d'État, et sans passer par la Commission des finances, merci de financer un poste, 2 en ETP, hein, pour une pastorale évangélique réformée et catholique. On a trouvé des gens qui étaient à la fois pasteurs et paysans. Maria Venet pour les catholiques, Pierre-André Schutz, que certainement d'aucuns connaissent. Et rapidement, Pierre-André et Maria ont demandé à 2 personnes, 3 de temps en temps, d'avoir de les épauler un peu. Nous nous retrouvions assez régulièrement à Roverea. Nous commencions par un moment de méditation et de prière, parce que ce que le Conseil d'État voulait, c'était un appui spirituel. Et je dois dire que ces 2 ans et demi que nous avons passés ont été denses, ont été intenses, ont été tragiques, parce que je trouvais des dossiers qui avaient le visage de gens qui étaient des collègues ou des voisins. Et c'est vrai que cette phase-là est passée, parce que l'agriculture s'est restructurée avec une force et une brutalité énorme en 10 ans. Et maintenant, ceux qui ont des vaches, eh bien, ils ont 90 vaches, ils produisent 1 million de kilos de lait, ils ont 2 robots de traite. Et le matin, quand ils arrivent à l'étable, ils vont dire bonjour à leurs vaches en allumant leurs écrans. Et leurs 2 écrans leur disent les problèmes et les choses qui sont passées pendant la nuit. Et ensuite, ils vont voir leurs bêtes. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a rien. Mais c'était où ça? Et on continue à avoir du lait en Suisse, où on continue d'avoir une agriculture à laquelle dont on a tous la nostalgie, mais on fait venir notre lait d'outre-Atlantique ou de l'Est de l'Europe. C'est brutal, c'est dur, mais les qualités intrinsèques du paysan, l'amour qu'il a pour son bétail, la passion qu'il a pour son métier, rassurez-vous, ça demeure intact. Le reste, c'est que de la garniture. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Chollet. Ben, maintenant, c'est bientôt l'heure de l'apéro, mais j'ai encore quand même à vous dire 2 choses. D'abord que, bien sûr, les auteurs, vous les retrouvez dehors avec les livres. Donc, ils seront prêts à vous dédicacer leurs ouvrages. Et il y a donc aussi l'éditrice d'autre part, des éditions d'autre part, qui est là, Yasmine Liardet. Et puis, Blaise est venu avec aussi ses ouvrages. Zoé n'arrive pas à suivre Blaise partout. Ce n'est pas possible, donc il vient avec ses ouvrages. Et puis, il y a aussi, en fait, il n'y a pas de chapeau, parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont déjà parlé de chapeau. Il n'y a pas de chapeau, mais si vous voulez, si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez volontiers devenir membre de Tu l'as lu. Il y a des cartes à l'extérieur sur la table où il y a les livres, où on vous explique tout par rapport à cette façon, enfin, par rapport à devenir membre. Et puis, je voulais quand même vous parler aussi du prochain rendez-vous. Il faut prendre note. Il aura donc lieu le 9 octobre, lundi 9 octobre à 19h, et nous irons cette fois à l'usine de Pierre de Plan pour rencontrer Marie-Jeanne Urec autour de son ouvrage qui s'appelle « K comme almanach ». D'ailleurs, c'est un des ouvrages qui fait partie du roman des romans cette année. Et là, nous aurons un accompagnement musical. Nous avons la chance d'avoir le musicien avec nous ce soir. Ce sera le contrebassiste Sébastien Chic qui accompagnera la lecture. Donc, notez bien, 9 octobre, 19h, usine de Pierre de Plan. Et c'est pas, enfin, je vous dis pas, je vous dévoile pas pourquoi on y va, mais il y a une raison très précise pourquoi on va à Pierre de Plan. Donc maintenant, place à l'apéro. Alors, il y a non seulement du vin de Blaise et des saucisses de Jean-Pierre, mais il y a aussi des produits de la ferme de Rovéréa. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a un magasin ici qui vend toutes sortes de choses, des légumes, des fruits, des fromages, des produits laitiers, enfin toutes sortes de choses, qui est ouvert tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi, de 9h à 18h, et le samedi de 9h à 16h. Profitez-en, c'est proche de la ville, c'est des produits locaux. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être venus.